Crédit Cœur secrète.
En 1916, la guerre, on le sait, va durer. Personne ne pense plus que la victoire sera au bout du fusil et sera pour le lendemain.
Le contexte.
Et c'est à ce moment-là que Pierre-Albert Biraud ressort un projet qu'il avait déjà au cours de l'année 1915, qui était de publier une revue qui devait servir de liaison entre les poètes qui étaient aux armées, et ils étaient nombreux, et aussi qui devaient exprimer l'esprit, la survivance de l'esprit dans une situation belliqueuse internationale.
Ça veut dire que c'était déjà un outil de liaison, de communication d'une communauté de poètes quasiment identifiés, alors qu'en même temps, dès le premier numéro, il s'ouvre à tous les contributeurs possibles.
Le contexte. Sans la poésie.
Et en même temps qu'il s'ouvre, que c'est un outil malléable et qui s'affiche comme malléable, il a un soin pour la diffusion très précis dès le début.
Oui, disons que Pierre-Albert Biraud met ses compétences au service de ses confrères en poésie. Enfin, c'est l'idée qu'il se donne. De même qu'il a l'idée de servir essentiellement Apollinaire, qu'il admire beaucoup, et lui-même, parce qu'il n'est pas, il ne se considère pas comme négligeable. Il ne faut pas croire. Pierre-Albert Biraud est un individu assez étonnant pour l'époque. Il n'est pas tout jeune. En 1915, il a 35 ans. 1916, il a 35 ans.
Une écriture.
Il a déjà une carrière d'architecte.
Sa réponse.
De sculpteur. Il est déjà connu. Il a eu ses petites activités littéraires et artistiques. Il a ses activités. Et disons que ses goûts ne le portaient pas naturellement, ni sa formation, ne le portaient pas naturellement vers l'avant-garde. Mais il va mettre toute cette compétence, tout ce qu'il va apprendre aussi par la suite en typographie, dans la mise en page, grâce
à
ses voisins
d'ouverture,
comme Severini, à ses voisins de palier, si je puis dire, à des peintres, à des musiciens, il arrive à créer une atmosphère d'un petit groupe d'avant-garde qui n'a pas de nom en soi, qui n'est pas baptisé. Ce sont des réunions d'amis, et il va mettre tout cela au service des poètes, essentiellement à l'intention des poètes qui sont combattants.
Alors quand il nous apparaît d'avant-garde aujourd'hui de voir dans un même sommaire d'une revue un peintre, des partitions manuscrites, des poèmes qui à chaque fois se redéfinissent dans ce qu'ils sont comme poèmes, est-ce que c'est simplement du coup le fait d'amitié qui se déduisent les unes des autres, il connaît Apollinaire par Severini, ou est-ce que c'est une... Enfin, semble-t-il, il n'y avait pas d'intention de faire avant-garde ou de couper avec ce qui était déjà institué en termes de revue d'art.
Une stratégie ou une compétence?
Non, il y a l'idée de créer quelque chose de neuf et de reliant l'ensemble des sens, des cinq sens en quelque sorte. Et c'est le titre de la revue l'exprime à travers ses variations. Mais le dernier titre retenu, Sic, son idée couleur, à quoi Pierre-Albert Biraud va ajouter forme, parce que bien sûr c'est de là qu'il vient. Il vient du domaine artistique. Il va vers le poétique, mais aussi vers le théâtral. Il va s'occuper de théâtre, il va publier du théâtre, et il va entre autres s'occuper de monter la pièce d'Apollinaire.
La nouveauté, mais l'ouverture.
Oui, il invente, Pierre-Albert Biraud invente le terme nounisme, venant du grec noun maintenant, pour exprimer sa conception de l'art contemporain, de l'art actuel. Et ce n'est plus l'héritier du passé, lui-même a été largement formé par l'art classique. Mais il s'agit maintenant de tout évacuer, et en ce sens, c'est là que Sic est un produit de la guerre et la contrepartie, si je puis dire, de l'état de guerre. La guerre a balayé, en quelque sorte, toute l'éducation antérieure, tout ce qui a pu être fait paraît maintenant à la dimension des choses. Il faut bien savoir que c'est une guerre qui n'a jamais eu une telle proportion. Autrefois, jusqu'en 1870, les combats, et même les guerres qui ont suivi, les guerres des Balkans, qui sont récentes, 1913, tout cela, ce sont des guerres localisées, faites par, en quelque sorte, des professionnels. Et là, on se trouve devant quelque chose d'immense, qui a tout balayé, y compris dans les esprits, même de ceux qui n'étaient pas au combat, comme Pierre-Albert Biro, puisqu'il s'est trouvé qu'il était réformé.
Mmh.
Et
une armée des arts.
On n'a plus aucune confiance dans la tradition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Développer autre chose. Alors, le présent. Pour Albert Biro, c'est le présent, le présentisme, dira-t-on à un moment, d'autres mouvements vont s'appeler ainsi, tout ce qui est d'aujourd'hui et qui va permettre peut-être de reconstruire. Pour l'instant, on n'en est pas à la reconstruction, on est à la survie.
Alors justement, on en est à la survie, on sent que cette unité entre les arts peut être en fait corporatiste, puisqu'on n'a plus le temps de faire la distinction, on n'est plus en position socialement de pouvoir faire la différence entre les formes, et en même temps, c'est quand même une nouveauté que de les réunir à ce point-là. On est dans cette ambiguïté-là.
Oui, c'est une nouveauté. Il faut aussi penser qu'il n'y a peu de publications du même ordre. Le Mercure de France continue de paraître, c'est une revue extrêmement, d'une présentation extrêmement traditionnelle, avec des chroniques, ce sont des informations. Ce n'est pas une revue de création. Ça commence à disparaître, la création du Mercure de France. L'ANRF ne paraît plus. Donc, SIC va jouer un petit rôle de ferment. Et il va se trouver investi aussi par des poètes, tout cela par relation, à partir de Severini va contacter
une génération,
des amis italiens,
des amitiés,
par Apollinaire surtout, Albert Biro va connaître plusieurs jeunes français qui vont devenir ses collaborateurs, tels que Aragon, Breton, Reverdy, qui est un fort soutien d'Apollinaire, et c'est comme ça que, de fait, la revue sera une revue d'avant-garde avec des auteurs nouveaux, tout à fait des jeunes dans la création, si je puis dire, et avec des perspectives de relations entre les arts par ses relations avec Jean Orloff, avec
une désinvolture,
différents
de l'originalité,
amis, qui fréquentent comme eux les soirées poético-littéraires qui subsistent encore un petit peu à Montparnasse, au Vieux Colombier.
Etc. La nouveauté, mais
il faut toujours. Moi, je prétends qu'il faut avoir une vision binoculaire de l'histoire. Je constate que les historiens de l'art ou de la littérature sont toujours regardent les choses d'un seul œil. Et ce faisant, ils deviennent borgnes. C'est naturel. À force de ne se servir que d'un œil, c'est ce qu'ont fait les sols. Vous savez, leur deuxième œil s'est enterré. Bon, alors, moi je plaide pour une histoire binoculaire, non pas parce que je suis binoclard, mais tout simplement parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé à l'époque et ce qu'aujourd'hui nous en ressentons. Si nous parlons tous les deux aujourd'hui de SIC, c'est parce que nous lui trouvons un certain intérêt encore aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une pièce, un document historique. C'est que cette conflagration d'images, cette poésie, cette forme de poésie, tout cela, nous dit encore quelque chose. Nous dit et nous parle de la peinture, nous parle de la musique de la même façon. Et aussi, si nous en parlons encore, c'est parce que la revue a eu suffisamment de succès à l'époque pour être connue par un public assez large. Il y a eu un système de diffusion. Il allait même jusqu'à utiliser les messageries Hachette, ce qui, pour de une revue de poésie, est incroyable. Imaginez-vous aujourd'hui, toute proportion gardée, une revue de jeunes disant « Bon, allez, on va passer par Hachette ». Imaginez-vous une revue comme ça dans un kiosque de gare. Voilà.
Une désinvolture.
Alors, je dirais que dans tous les collaborateurs, c'est peut-être l'animateur qui s'est le plus effacé. Mais ça, c'est un peu la caractéristique de tous les organes de ce genre. On oublie qui est le fondateur, qui est l'animateur, ou quelle œuvre a pu faire tel fondateur d'une revue. Je pense une revue contemporaine importante, hein, c'est le Mercure de France. Bon, l'œuvre d'Alfred Valette n'existe pas.
Mais on peut aussi parler d'une écriture d'animation, une écriture d'animateur, quand il fait un poème imagé, un poème anecdotique, quand il doit à chaque fois qualifier le poème qu'il écrit dans SIC, il développe ce qu'on pourrait appeler, oui c'est ça, une œuvre de l'animation, de l'animation de revue.
Une stratégie ou de l'originalité.
Oui, c'est un poète du quotidien aussi. Donc il poétise, si je puis dire, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit. Il essaye de le mettre. Alors, bon, les vers sont des vers de Mirliton, hein, c'est pas de la grande poésie, mais parfois il y a une image ici ou là qui nous ouvre l'esprit. Je me souviens d'être allé chez lui, je ne pourrais pas vous dire comme ça, de but en blanc, le message qui était affiché à sa porte, mais c'était un message poétique et qui disait en quelque sorte « Amis, si vous venez, sonnez et ne soyez pas impatients », quelque chose comme ça, mais d'une façon agréable et poétique et lyrique.
Lyrique, oui. Oui. On lit aussi très vite dans le numéro 11, nous sommes cubistes, futuristes, simultanistes, unanimistes, plus trois petits points istes, plus trois petits points istes, en un mot nuniste. Donc nuniste, ça a une vocation à résumer à tous fédérer. Les istes en cours.
Une compétence.
Oui, c'est fédérer, c'est rassembler tout. Il faut savoir qu'il y a eu, à l'époque, qu'il y avait avant la guerre et même pendant la guerre, multiplicité d'ismes à tel point qu'un collègue belge a fait une thèse sur tous les ismes. À l'époque, ça faisait une thèse comme on en faisait autrefois. 900 pages, quelque chose comme ça, avec l'ensemble de tous ces mouvements qui ont précédé Dada et le surréalisme. Dada, justement, va représenter la rupture. Il refuse l'isme. On ne dit pas le dadaïsme, on dit Dada. Dada s'affirme déjà avec un nom, une étiquette qui refuse les ismes, toutes ces variantes qui prolifèrent à la même époque. D'où le rejet aussi du nunisme par Dada.
Ou technicisation.
Pour moi, il y a un jeu avec la presse. Le Dada a su très vite, dès le début, utiliser, comme on dit aujourd'hui, utiliser les médias, c'est-à-dire se faire connaître. Et avec un certain nombre de nouvelles plus ou moins violentes, plus ou moins fausses, plus ou moins surprenantes, attirer l'attention sur lui-même pendant le temps de son existence. Oui. Donc, refus du journalisme, bien sûr, en ce que le journalisme... Alors, bien sûr, mais ça va avec la position, la conception politique, poético-politique du mouvement. Le mouvement Dada, à ses débuts, refuse aussi toute prise de position politique. Il se veut lui-même fédérant tous les artistes du continent.
Dès le numéro 1 de SIC et pendant plusieurs numéros, il y a une rubrique qui s'appelle « Opinion d'un Pékin ». Ça veut dire qu'il y a un jeu poétique avec la langue journalistique. Il y a donc une réplique, qui plus est en voulant être distribuée dans les messageries Hachette, une réplique à la langue journalistique au sein de la langue journalistique, dans les mêmes kiosques.
Il est clair que Pierre-Albert Miro, en écrivant en Pékin, écrit en civil. C'est cela qu'il veut dire. Hein. C'est un civil qui s'exprime. Parce que, il faut le dire, il y a des écrivains, des journalistes qui ont été recrutés, enfin qui ont été incorporés, par exemple Apollinaire.
Mais ça reprend aussi cette énoncé-là, opinion d'un Pékin, des types de rubriques qu'on pouvait trouver dans les revues des cabarets des Montmartre III de la fin du 19e.
Oui, bien sûr, hein, il y a le côté, mais il y a aussi des revues du même ordre qui continuent de paraître, du genre le rire, le sourire, etc., qui contiennent des propos comme ça. Et c'est un petit peu concomitant avec la création du Canard enchaîné.
Une armée des arts.